Midi 10 minutes, Hugo, tu comprendras qu'on va tasser un petit peu les nouvelles. On va les faire dans quelques minutes. Tiens-toi prêt. Mais j'avais une entrevue que je voulais réaliser et la personne prend du temps généreusement de sa part pour nous parler. On va aller le rejoindre dans quelques instants. C'est un individu qui... que j'ai eu la chance de rencontrer il y a quelques années ici, qui nous expliquait un peu sa réalité, réalité autochtone, réalité de médecin. Puis j'ai toujours dit la même chose concernant les réalités autochtones. Faut pas se mettre la tête dans le sable. Il y a des choses qui vont pas bien. Il y a des malaises sociaux et tout ça. Puis on avait parlé ensemble. Puis autant qu'il y a des joueurs de hockey autochtones qui sont devenus des modèles pour la communauté sportive, autant que je trouvais que M. Stanley Volant était un modèle pour les gens des Premières Nations, comme quoi, quand tu veux, tu peux aboutir au bout de tes rêves et surtout contribuer justement à aider la communauté. Bref, l'individu présentement est dans le rush, travaille comme un fou, mais il prend le temps de nous parler et c'est vraiment apprécié. M. Volant, bonjour.
Oui.
Hey, quoi aussi, je voulais savoir, vous êtes où présentement, physiquement? Vous travaillez à quel endroit?
Je travaille à l'hôpital Notre-Dame, à Montréal, donc dans le CIUSSS du centre-sud de l'île de Montréal. Un hôpital de 350 lits, un hôpital d'à près de la grosseur de l'hôpital de Chicoutimi, proche du pont Jacques-Cartier, en face du parc La Fontaine. C'est un vieil hôpital, là, mais qui est au fait de la chirurgie et des soins aux patients qui sont COVID. D'ailleurs, là, nous, on est un peu dans le rush parce que les soins intensifs sont pleins, on a de la misère à entrer des gens, les unités COVID sont en train de se remplir, puis on sent que c'est en train de se fermer. Dans le restant de l'île de Montréal, c'est la même chose, même en périphérie de Montréal, à Longueuil, à Laval, la pression est en train d'augmenter, puis on est à veille d'éclater.
Dites-moi donc, on va passer le sujet tout de suite. L'histoire de renforcer le confinement pour vous ce soir, je suppose que c'est une bonne idée?
Je pense que c'est nécessaire, puis ça aurait dû vraiment être fait avant. Je pense que tous les personnels qui travaillaient dans les hôpitaux, qui sont proches des patients qui sont COVID, on voyait ça monter depuis déjà 3-4 semaines. C'était assez évident que ça allait. Et puis, je pense que. Mais bon, les politiciens doivent jouer avec la population de façon générale, puis
Monsieur Volant, je ne sais pas si vous m'entendez, peut-être juste vous déplacer un petit peu, je vous ai perdu pendant quelques instants.
Okay. J'ai dit, ça fait quelques semaines qu'on voit la situation se détériorer, et pour nous, ça faisait, il n'y avait aucun doute qu'il fallait qu'on fasse un confinement total le plus rapidement possible. Là, on le fait à partir d'aujourd'hui. On est très content, mais on sait qu'on va quand même frapper le mur dans les prochains jours.
Ça veut dire quoi, frapper le mur?
On n'aura plus de place pour garder les gens aux soins intensifs. On va avoir de la misère à rentrer les gens qui ont le COVID dans les unités COVIDiennes parce qu'ils sont déjà pleins. On va devoir commencer à faire des choix. Qui qu'on va soigner? Ça va être plate, là, mais on est rendu à quelques jours de décider qui qu'on va soigner.
Monsieur Volant, je vous pose la question. Ça fait combien d'années que vous pratiquez la médecine?
Ça fait près de 30 ans que je pratique la médecine, wow. 26 ans la chirurgie. Wow. Donc, j'en ai vu pas mal. J'ai quand même pas mal d'expérience. Mais qu'est-ce qu'on vit actuellement? C'est quelque chose qu'on va se rappeler le restant de ma vie. Puis plusieurs jeunes vont se rappeler le restant de leur vie. Puis on va sûrement apprendre des choses de cette pandémie-là. Mais d'un côté, on voit aussi l'être humain s'allier dans tous les pays. On travaille ensemble pour développer le vaccin. Moi, j'étais vacciné hier.
Ben, c'est pour ça que je vous rejoins aujourd'hui. J'ai vu que j'avais vu, je pense, sur votre page publique que vous avez eu le vaccin. Vous confirmez que vous allez bien. Vous avez confirmé que vous n'avez pas changé de couleur, que vous n'avez pas parlé un autre dialecte. Vous êtes le même vous êtes le même Stanley que vous étiez avant le vaccin hier?
Ben, en me levant ce matin, je me ressemblais comme hier. Fait que bon. Je suis pas devenu un zombie. Pour les gens qui sont inquiets que l'ARN messager transforme les gens. C'est sûr qu'il y a des points d'interrogation, mais je pense qu'actuellement, la situation est catastrophique. Je pense qu'entre deux mâles, il faut le moindre.
Mais comment ça, il y a du monde? On a même vu, puis à moins que les journalistes aient été de mauvaise foi, mais j'ai même vu que dans certains endroits hospitaliers ou résidences, il y a le staff lui-même, il y a des infirmiers et des infirmières qui ne veulent pas se faire vacciner. Je comprends pas ça. Vous êtes supposés être les meilleurs soldats et représentants de cette méthode-là?
Je pense que la majorité des gens que je connais le veulent. Je pense que le personnel médical, la majorité, par 90% et plus, vont se faire vacciner. Au niveau des infirmiers, c'est quand même assez nombreux. C'est plus au niveau du personnel, comme les préposés bénéficiaires, un peu plus de résistance à ce niveau-là. Je pense que peut-être ils n'ont pas une formation scientifique comme les infirmières, infirmiers et médecins. Peut-être qu'il y a plus d'inquiétude par rapport à la science. Et de notre côté, comme infirmiers, infirmières, médecins,
chirurgiens, tout ça, ouais.
Quand on voit ce qui se passe, on dit bon, on n'a pas le choix. Puis je pense que c'est la seule façon de casser cette crise-là, cette pandémie-là. Puis ça va se faire de façon mondiale. Puis moi, je me suis fait vacciner hier pour pas transmettre cette maladie-là à mes patients, mm-hmm. et aussi aux gens que j'aime. Puis
Il y a une affaire, M. Volant, justement, puis on va l'aborder, puis je suis tellement content de vous parler, parce que moi, je disais, puis corrigez-moi en passant de mon humilité, vous pouvez me corriger n'importe quand. Moi, je disais, il y a deux problèmes présentement au niveau de la santé, c'est que les cas continue de monter. Malheureusement, quoi qu'on le fait, peu importe les excuses ou les explications, malheureusement, les faits sont que les chiffres montent avec les hospitalisations. Donc, on surcharge le système de santé. Ça, c'est une chose, puis les médias ont dit toujours ça, mais il y a un autre éléphant dans la pièce qui est, on perd des hommes et des femmes qui travaillent dans le réseau de la santé. Il manque 7000 personnes. Donc, vous devez constater que vos équipiers, ils en tombent au combat. Ils sont où? On les ramène-tu au bout de 14 jours? Comment ça se fait qu'on n'est pas capable de récupérer ces gens-là?
Mais je peux vous dire qu'une partie significative des gens qui, au printemps, des gens qui auraient pris leur retraite dans un an ou deux, qui ont pris leur retraite immédiatement. Ils voulaient pas s'embarquer là-dedans.
Oh.
Ils sont en fin de carrière, puis on dit, on tire la bloc, il y en a plus. Je pense que j'en connais au moins une 10-15 à l'hôpital ici où je travaille, qui ont fait ce move-là.
Oh.
De sortir, de se retirer un an ou deux avant. Puis il y a des gens qui sont épuisés. Travailler dans une unité COVID, là, avec le masque N95, toute la tiraille, la chaleur écrasante, le stress. On a perdu plusieurs personnes pour des considérations de santé mentale.
Mm-hmm.
C'est tough en chienne. Puis il y a des gens qui ont été malades et qui ont fait la COVID et qui ont des séquelles. Vous savez qu'il y a plusieurs personnes, pourcentage quand même, peut-être un 15-20%, qui ont des séquelles à long terme qui empêchent le retour. Puis il y a des gens qui ont peur aussi. Des gens qui ont peur d'amener la COVID chez eux parce qu'ils ont des gens âgés avec eux. Des jeunes enfants, des gens malades.
Je veux bien croire, mais on n'a pas le luxe de se priver de ces bonnes personnes-là, malheureusement. Je comprends les femmes enceintes, je peux comprendre. Les immunosupprimés, je peux comprendre, bien évidemment. Les gens qui ont les symptômes pendant X nombre de jours, je peux comprendre. Mais les gens qui ont peur d'avoir peur, on a toutes peur d'avoir peur. Vous avez besoin de staff, puis je sais pas.
Regardez, durant la guerre, il y a des gens qui se dégonflaient, qui désertaient.
Hein. Conscription,
la nature est comme ça, puis la nature humaine est comme ça, puis... pour le faire, mais le problème, c'est qu'on était déjà short staff en début, avant même la pandémie. À la première vague, on était comme des soldats frais, là, prêts à l'attaque. Mais après quelques mois, les gens étaient épuisés. Fait que là, aujourd'hui, les gens tombent, puis ça ne va plus du tout. Et on a perdu du monde sur le chemin. Fait que, donc, on se retrouve vraiment à court de main-d'œuvre. Et le problème, actuellement, c'est la main-d'œuvre qu'on est en train de perdre. Aux soins intensifs, on a de la misère à remplir les temps des soins intensifs. Les gens s'épuisent, on les voit, c'est des très tirés, des très fatigués. On t'offre pas longtemps comme ça.
En tout cas, espérons que le dernier grand coup que le gouvernement s'apprête à donner ce soir avec une arrivée de la vaccination, mais que vous le voyez autant que moi, vous, c'est correct, là, on a toujours dit que le personnel de la santé doit être les gens priorisés pour le vaccin, mais il faudrait que ça vaccine un peu plus vite. Avant qu'on se quitte, j'ai dit que vous étiez un modèle pour les communautés autochtones, je le pense sincèrement. Est-ce que vous avez des échos des territoires un peu plus éloignés au Québec? Si on sait que la vaccination, on voulait les vacciner rapidement, mais en même temps, c'est une logistique qui fait que ça... On en est où au niveau des territoires autochtones?
Dans certaines communautés, comme chez les Innus, le pourcentage de personnes qui veulent se faire vacciner est assez élevé. Dans certaines communautés, comme chez les Atikamekw, il y a plus de réticence. Je pense que ce qui se passait avec Just Echequan à l'automne a beaucoup donné d'incertitude ou d'insécurité aux gens par rapport au système médical. Et le vaccin, pour eux, c'est comme une autre façon de pouvoir
les dominer.
C'est une affaire de non-autochtones qui veulent l'imposer aux autochtones. Donc, il y a beaucoup de travail de publicité, de communication à faire. Puis,
est-ce que vous avez été, M. Volant, comme un symbole sollicité pour faire ce travail-là?
J'ai été interpellé, puis je vais le faire parce que je pense que c'est mon devoir de le faire pour dire aux gens que c'est la seule façon qu'on puisse en sortir. Quand ça va rentrer dans les communautés autochtones, la COVID, ça va être une très nette poudre parce que les conditions préexistantes de surhabitation, de comorbidité sont très, très importantes. Dans l'Ouest, il y a des catastrophes sanitaires qui arrivent. Donc, on veut pas que ça arrive au Québec. Et je pense que la vaccination doit se faire rapidement pour les populations à risque.
Surtout peut-être avec les vaccins qui sont plus malléables, plus facilement transportables, parce qu'on comprend que certains dont Pfizer sont plus tough à transporter. Donc, AstraZeneca, c'est peut-être celui le plus malléable pour les communautés éloignées?
Oui, puis le Moderna aussi, qui se transporte à moins 15, moins 20. Donc, ça va pas mal aller de ce côté-là plus rapidement. Mais là, on est en train de faire des campagnes de sensibilisation, de communication auprès de notre population.
OK, il y a déjà un travail à faire là. Déjà, il y a une job de perception avant même la vaccination dans certaines communautés, c'est ce que vous me dites.
Absolument.
OK. Ben là, je sais pas pour votre travail à Montréal, évidemment, je vous retiens pas plus parce que votre job, c'est de sauver des vies. Je comprends que vous avez été d'une générosité exemplaire de nous parler. C'est très, très, très gentil. Puis là, je sais pas. Puis en souhaitant que les décisions qu'on prend présentement, j'espère qu'elles auront des dividendes parce que ceux précédentes ont peut-être pas marché autant qu'on voulait, mais souhaitons que cette fois-là, ce soit la bonne.
Bien, moi, je vais profiter du moment pour souhaiter une bonne année à toute la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean, que j'apprécie beaucoup. Je suis tatoué avec un bleuet
sur le corps. Bien sûr.
Je dis aux gens, bonne année, puis on va passer à travers cette crise-là, ensemble, mais il faut être ensemble, puis il faut qu'on se respecte et qu'on essaie de penser aux gens qu'on aime, et on va passer à travers.
Monsieur
2022
Volant,
sera une meilleure année.
Monsieur Volant, vous avez dit 2022?
Oui.
Donc, vous avez dit, t'as peu, là. Pourquoi on ne se dit pas 2021 va être meilleur? Vous êtes pessimiste à ce point-là?
Bien, je pense que peut-être à partir de septembre, octobre prochain, ça va être bien, là, mais je pense qu'on a un petit 5-6 mois et bien plus à traverser. Donc, il ne faut pas se décourager. On voit la lumière pointe au bout du tunnel. On traverse. Il faut être résilient, fort et travailler ensemble.
Quand on se dit bonjour, souvent on va dire quoi, mais quand on se dit au revoir, on dit combien? On dit ça comment?
On dit miaut.
Miaut?
Miaut, miaut.
OK, bon, ben monsieur Volant, merci beaucoup et à la prochaine, sincèrement.
Miaut.
Bye-bye, miaut. Midi 22 minutes, le docteur chirurgien Stanley Volant, qui, j'y ai écrit hier, puis je ne savais pas, j'avais pas beaucoup d'espoir parce que je savais qu'il travaillait au fond, mais comme il avait été vacciné, j'ai dit tout d'un coup qu'on peut y parler. Alors, très cool, très apprécié de sa place. Puis, vous comprendrez qu'il est non seulement un homme de médecine, mais il est également un autochtone qui comprend les réalités de son peuple. Puis, la dernière fois que j'y avais parlé, on avait parlé beaucoup du traumatisme social, des cultures, puis pourquoi ça se perdure de génération en génération. C'est compliqué, mais c'est en se parlant qu'on se comprend, bien évidemment. Ça excuse pas tout, mais au moins, on permet la possibilité de se comprendre entre gens. Et vous comprenez le bordel que ça peut être dans certains territoires, pas tous, mais certains que, bon, même le vaccin, la perception du vaccin, déjà là, elle est malsaine dans certains cas, probablement par erreur, mais on peut comprendre, il a toute une job à faire là-bas. Et lui, présentement, il est du côté de Montréal. On va faire nos nouvelles.